Chapitre 14. Le sac de pommes de terre. Pendant que M. Darzac, sur les conseils de Rouletabille, s'employait avec Bernier à faire disparaître les traces du drame, la dame en noir, qui avait hâtivement changé de toilette, s'empressa de gagner l'appartement de son père avant qu'elle courût le risque de rencontrer quelque hôte de la Louve. Son dernier mot avait été pour nous recommander la prudence et le silence. Rouletabille nous donna congé. Il était alors 7 heures et la vie renaissait dans le château et autour du château. On entendait le chant nasillard des pêcheurs dans leurs barques. Je me jetai sur mon lit et cette fois je m'endormis profondément, vaincu par la fatigue physique plus forte que tout. Quand je me réveillais, je restais quelques instants sur ma couche, dans un doux anéantissement. Et puis, tout à coup, je me dressais, me rappelant les événements de la nuit. « Oh, ça fiche tout haut. Ce corps de trop est impossible. » Ainsi, c'était cela qui surnageait au-dessus du gouffre sombre de ma pensée, au-dessus de l'abîme de ma mémoire, cette impossibilité du corps de trop. Et ce sentiment que je trouvais à mon réveil ne me fut point spécial, loin de là. Tous ceux qui eurent à intervenir, de près ou de loin, dans cet étrange drame de la tour carrée, le partageaient. Et alors que l'horreur de l'événement en lui-même, l'horreur de ce corps à l'agonie, renfermé dans ce sac qu'un homme emportait dans la nuit pour le jeter dans on ne savait quelle lointaine et profonde et mystérieuse tombe où il achèverait de mourir, s'apaisait, s'évanouissait dans les esprits, s'effaçait de la vision. Au contraire, l'impossibilité de ça, c'est-à-dire du corps de trop, monta, grandit, se dressa devant nous, toujours plus haut et plus menaçante et plus affolante. Certains, comme Mistress Edith, par exemple, qui nièrent par habitude de nier ce qu'ils ne comprenaient pas, qui nièrent les termes du problème que nous posait le destin, tel que nous avons établi sans retour dans le chapitre précédent, durent par la suite des événements qui eurent pour théâtre le fort d'Hercule, se rendre à l'évidence de l'exactitude de ces termes. Et d'abord l'attaque. Comment l'attaque s'était-elle produite? À quel moment? Par quels travaux d'approche moraux? Quelle mine contre mine, tranchée, chemin couvert, bretèche dans le domaine de la fortification intellectuelle, ont servi l'assaillant et lui ont livré le château? Oui, dans ces conditions, où est l'attaque? Ah, que de silence! Et pourtant, il faut savoir. Rouletabille l'a dit, il faut savoir. Dans un siège aussi mystérieux, l'attaque dut être dans tout et dans rien. L'assaillant se tait et l'assaut se livre sans clameur. Et l'ennemi s'approche des murailles en marchant sur ses barres. L'attaque, elle est peut-être dans tout ce qui se tait, mais elle est peut-être encore dans tout ce qui parle. Elle est dans un mot, dans un soupir, dans un souffle. Elle est dans un geste, car si elle peut être aussi dans tout ce qui se cache, elle peut être également dans tout ce qui se voit, dans tout ce qui se voit et que l'on ne voit pas. 11 heures. Où est Rouletabille? Son lit n'est pas défait. Je m'habille à la hâte et je trouve mon ami dans la baille. Il me prend sous le bras et m'entraîne dans la grande salle de la Louve. Là, je suis tout étonné de trouver, bien qu'il ne soit pas encore l'heure de déjeuner, tant de monde réuni. Monsieur et Madame Darzac sont là. Il me semble que M. Arthur Rance a une attitude extraordinairement froide. Sa poignée de main est glacée. Aussitôt que nous sommes arrivés, Mistress Edith, du coin sombre où elle est nonchalamment étendue, nous salue de ces mots. « Oh, vous voici, M. Rouletabille, avec son ami Sinclair. Nous allons savoir ce qu'il veut. » L'aquaroultabille répond en s'excusant de nous avoir tous fait venir à cette heure dans la louve. Mais il a, affirme-t-il, une si grave communication à nous faire qu'il n'a pas voulu la retarder d'une seconde. Le ton qu'il a pris pour nous dire cela est si sérieux que Mistress Edith affecte de frissonner et simule une peur enfantine. Mais Rouletabille, que rien ne démonte, dit « Attendez, madame, pour frissonner, de savoir de quoi il s'agit. J'ai à vous faire part d'une nouvelle qui n'est point gaie. » Nous nous regardons tous. Comme il dit cela, j'essaye de lire sur le visage de M. et Mme Darzac leur expression du jour. Comment leur visage se tient-il depuis la nuit dernière? Très bien, ma foi, très bien. On n'est pas plus fermé. Mais qu'as-tu donc à nous dire, Rouletabille? Parle! Il prit ceux d'entre nous qui sont restés debout de s'asseoir, et enfin il commence. Et il s'adresse à Mistress Edith. Et d'abord, madame, permettez-moi de vous apprendre que j'ai décidé de supprimer toute cette garde qui entourait le château d'Hercule comme d'une seconde enceinte, que j'avais jugé nécessaire à la sécurité de monsieur et de madame Darzac, et que vous m'aviez laissé établir, bien qu'elle vous gênât, à ma guise, avec tant de bonne grâce, et aussi, nous pouvons le dire, quelquefois avec tant de bonne humeur. Cette directe allusion aux petites moqueries dont nous gratifiait Mrs. Edith quand nous montions la garde fait sourire M. Arthur Rance et Mistress Edith elle-même. Mais ni M. ni Mme Darzac ni moi ne sourions, car nous nous demandons avec un commencement d'anxiété où notre ami veut en venir. « Ah, vraiment, vous supprimez la garde du château, M. Rouletabille ? Eh bien, vous m'en voyez toute réjouie, non point qu'elle n'ait jamais gênée, » fait Mrs. Edith avec une affectation de gaieté. « Affectation de peur, affectation de gaieté, je trouve Mrs. Edith très affectée, et chose curieuse, elle me plaît beaucoup ainsi. Au contraire, elle m'a tout à fait intéressé à cause de mes goûts romanesques. Mais si je me réjouis de sa disparition, c'est qu'elle me prouve que M. et Mme Darzac ne courent plus aucun danger. » Et c'est la vérité, madame, répliquera Rouletabille, depuis cette nuit. Mme Darzac ne peut retenir un mouvement brusque que je suis le seul à apercevoir. Tant mieux, s'écrie Mrs. Edith, et que le ciel en soit béni. Mais comment, mon mari et moi, sommes-nous les derniers à apprendre une pareille nouvelle? Il s'est donc passé cette nuit des choses intéressantes? Ce voyage nocturne de M. Darzac, sans doute. M. Darzac n'est-il pas allé à Castellar? Pendant qu'elle parlait ainsi, je voyais croître l'embarras de M. et Mme Darzac. M. Darzac, après avoir regardé sa femme, voulut placer un mot, mais Rouletabille ne le lui permit pas. « Madame, je ne sais pas où M. Darzac est allé cette nuit, mais il est nécessaire que vous sachiez une chose. C'est la raison pour laquelle M. et Mme Darzac ne courent plus aucun danger. Votre mari, madame, vous a mis au courant des affreux drames du Glandier et du rôle criminel qui joua. Ah, Frédéric Larsan, oui, monsieur, je sais tout cela. Vous savez également, par conséquent, que nous ne faisions si bonne garde ici autour de M. et de Mme Darzac que parce que nous avions vu réapparaître ce personnage. Parfaitement. Eh bien, M. et Mme Darzac ne courent plus aucun danger parce que ce personnage ne reparaîtra plus. Qu'est-il devenu? Il est mort. Quand? Cette nuit. Et comment est-il mort cette nuit? On l'a tué, madame. Et où l'a-t-on tué? Dans la tour carrée. Nous nous levâmes tous à cette déclaration dans une agitation bien compréhensible. Monsieur et Madame Brown, stupéfaits de ce qu'ils apprenaient, Monsieur et Madame Darzac et moi, effarés de ce que Rouletabille n'avait pas hésité à le leur apprendre. « Dans la tour carrée !» s'écria Mrs. Edith. « Et qui est-ce qui l'a tué ?»« Monsieur Robert Darzac, » fit Rouletabille, et il pria tout le monde de se rasseoir. Chose étonnante, nous nous rassîmes comme si dans un moment pareil nous n'avions pas autre chose à faire qu'à obéir à ce gamin. Mais presque aussitôt, Mrs. Edith se leva et, prenant les mains de Monsieur Darzac, elle lui dit avec une force, une exaltation véritable cette fois-ci, « Décidément, aurais-je mal jugé, Mrs. Edith, en la trouvant affectée. « Bravo, Monsieur Robert! All right, you are a gentleman !» Et elle se retourna vers son mari en s'écriant, « Ah, voilà un homme, il est digne d'être aimé !» Alors, elle fit des compliments exagérés, mais c'était peut-être dans sa nature, après tout, d'exagérer ainsi toute chose, à Madame Darzac. Elle lui promit une amitié indestructible. Elle déclara qu'elle et son mari étaient tout prêts, dans une circonstance aussi difficile, à les seconder, elle et Monsieur Darzac, qu'on pouvait compter sur leurs ailes, leur dévouement, et qu'ils étaient prêts à attester tout ce que l'on voudrait devant les juges. « Justement, madame, » interrompit Rouletabille, « il ne s'agit point de juges et nous n'en voulons pas. Nous n'en avons pas besoin. Larsan était mort pour tout le monde avant qu'on ne le tuât cette nuit. Eh bien, il continue à être mort, voilà tout. » Nous avons pensé qu'il serait tout à fait inutile de recommencer un scandale dont M. et Mme Darzac et le professeur Stangerson ont été beaucoup trop déjà les innocentes victimes, et nous avons compté pour cela sur votre complicité. Le drame s'est passé d'une façon si mystérieuse cette nuit que vous-même, si nous avions pris la précaution de vous le faire connaître, eussiez pu ne jamais le soupçonner. Mais M. et Mme Darzac sont doués de sentiments trop élevés pour oublier ce qu'ils devaient à leur hôte en une pareille occurrence. La plus simple des politesses leur ordonnait de vous faire savoir qu'ils avaient tué quelqu'un chez vous cette nuit. Quel que soit en effet notre quasi-certitude de pouvoir dissimuler cette fâcheuse histoire à la justice italienne, on doit toujours prévoir le cas où un incident imprévu la mettrait au courant de l'affaire. Et monsieur et madame Darzac ont assez de tact pour ne point vouloir vous faire courir le risque d'apprendre un jour par la rumeur publique ou par une descente de police un événement aussi important qui s'est passé justement sous votre toit. Monsieur Arthur Rance, qui n'avait encore rien dit, se leva tout blême. Frédéric Larsan est mort, fit-il, eh bien tant mieux. Nul ne s'en réjouira plus que moi. Et s'il a reçu de la main même de M. Darzac le châtiment de ses crimes, nul plus que moi n'en félicitera M. Darzac. Mais j'estime avant tout que c'est là un acte glorieux dont M. Darzac aurait tort de se cacher. Le mieux serait d'avertir la justice et sans tarder. Si elle apprend cette affaire par d'autres que par nous, voyez notre situation. Si nous nous dénonçons, nous faisons œuvre de justice. Si nous nous cachons, nous sommes des malfaiteurs. On pourra tout supposer. À entendre M. Hans, qui parlait presque bégayant tant il était ému de cette tragique révélation, on lui dit que c'était lui qui avait tué Frédéric Larsan, lui qui déjà en était accusé par la justice, lui qui était traîné en prison. Il faut tout dire, messieurs, il faut tout dire. Mistress Edith ajouta, « Je crois que mon mari a raison. » Mais avant de prendre une décision, il conviendrait de savoir comment les choses se sont passées. et elle s'adressa directement à M. et Mme Darzac. Mais ceux-ci étaient encore sous le coup de la surprise que leur avait procurée Rouletabille en parlant. Rouletabille qui, le matin même, devant moi, leur promettait le silence et nous engageait tous au silence. Aussi n'eurent-ils point une parole. Ils étaient comme en pierre dans leur fauteuil. M. Arthur Rance répétait « Pourquoi nous cacher? Il faut tout dire. » Tout à coup, le reporter sembla prendre une résolution subite. Je compris à ses yeux traversés d'un brusque éclair que quelque chose de considérable venait de se passer dans sa cervelle. Et il se pencha sur Arthur Rance. Celui-ci avait la main droite appuyée sur une canne à bec de Corbin. Le bec en était d'ivoire et joliment travaillé par un ouvrier illustre de Dieppe. Rouletabille lui prit cette canne. « Vous permettez, dit-il, je suis très amateur du travail de l'ivoire et mon ami Sinclair m'a parlé de votre canne. Je ne l'avais pas encore remarqué. Elle est en effet fort belle. C'est une figure de l'Orbès. Il n'y a point de meilleur ouvrier sur la côte normande. » Le jeune homme regardait la canne et ne semblait plus songer qu'à la canne. Il la mania si bien qu'elle lui échappa des mains et vint tomber devant Madame Darzac. Je me précipitai, la ramassai et la rendis immédiatement à M. Arthur Rance. Rouletabille me remercia avec un regard qui me foudroya. Et avant d'être foudroyé, j'avais lu dans ce regard-là que j'étais un imbécile. Mistress Edith s'était levée, très énervée de l'attitude insupportable de suffisance de Rouletabille et du silence de M. et Mme Darzac. « Cher, fit-elle à Mme Darzac, je vois que vous êtes très fatigué. Les émotions de cette nuit épouvantable vous ont exténué. Venez, je vous en prie, dans nos chambres, vous vous reposerez. Je vous demande bien pardon de vous retenir un instant encore, Mrs. Edith, interrompit Rouletabille, mais ce qui me reste à dire vous intéresse particulièrement. Eh bien, dites, monsieur, ne nous faites pas languir ainsi. Elle avait raison, Rouletabille le comprit-il. Toujours est-il qu'il racheta la lenteur de ses prolégomènes par la rapidité et la netteté, le saisissant relief avec lequel il retraça les événements de la nuit. Jamais le problème du corps de trop dans la tour carrée ne devait nous apparaître avec plus de mystérieuse horreur. Mistress Edith en était toute réellement, je dis réellement, ma foi, frissonnante. Quant à Arthur Rance, il avait mis le bout du bec de sa canne dans sa bouche et il répétait avec un flegme tout américain, mais avec une conviction impressionnante, « C'est une histoire du diable, c'est une histoire du diable, l'histoire du corps de trop est une histoire de diable. » Mais, disant cela, il regardait le bout de la bottine de Madame Darzac qui dépassait un peu le bord de sa robe. À ce moment-là, la conversation seulement redevint à peu près générale. Mais c'était moins une conversation qu'une suite ou qu'un mélange d'interjections, d'indignations, de plaintes, de soupirs et de condoléances, aussi de demandes d'explications sur les conditions d'arrivée possible du corps de trop, explications qui n'expliquaient rien et ne faisaient qu'augmenter la confusion générale. On parla aussi de l'horrible sortie du corps de trop dans le sac de pommes de terre, et Mistress Edith, à ce propos, réédita l'expression de son admiration pour le gentleman héroïque qu'était M. Robert Darzac. Rouletabille, lui, ne daigna point laisser tomber un mot dans tout ce gâchis de paroles. Visiblement, il méprisait cette manifestation verbale du désarroi des esprits, manifestation qu'il supportait avec l'air d'un professeur qui accorde quelques minutes de récréation à des élèves qui ont été bien sages. C'était l'un de ces airs qui ne me plaisait pas et que je lui reprochais quelquefois, sans succès d'ailleurs, car Rouletabille a toujours pris les airs qu'il a voulu. Enfin, il jugea sans doute que la récréation avait assez duré, car il demanda brusquement à Mistress Edith « Eh bien, Mistress Edith, pensez-vous toujours qu'il faille avertir la justice ?»« Oh, je le pense plus que jamais, » répondit-elle. « Ce que nous serions impuissants à découvrir, la découvrira certainement, elle. » Cette allusion voulue à l'impuissance intellectuelle de mon ami laissa celui-là parfaitement indifférent. « Et je vous avouerai même une chose, monsieur Rouletabille, » ajouta-t-elle, « c'est que je trouve qu'on aurait pu l'avertir plus tôt, la justice. Cela vous eût évité quelques longues heures de garde et de nuits d'insomnie qui n'ont en somme servi à rien puisqu'elles n'ont pas empêché celui que vous redoutiez tant de pénétrer dans la place. » Rouletabille s'assit, domptant une émotion vive qui le faisait presque trembler, et d'un geste qu'il voulait rendre évidemment inconscient, s'empara à nouveau de la canne que M. Arthur Rance venait de poser contre le bras de son fauteuil. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il veut faire de cette canne? Cette fois-ci, je n'y touche plus, je m'en garderai bien. Jouant avec la canne, il répondit à Mistress Edith, qui venait de l'attaquer d'une façon aussi vive, presque cruelle. Mistress Edith, vous avez tort de prétendre que toutes les précautions que j'avais prises pour la sécurité de M. et Mme Darzac ont été inutiles. Si elles m'ont permis de constater la présence inexplicable d'un corps de trop, elles m'ont également permis de constater l'absence peut-être moins inexplicable d'un corps de moins. Nous nous regardâmes tous encore, les uns cherchant à comprendre, les autres redoutant déjà de comprendre. « Eh eh !» répliqua Mistress Edith, « dans ces conditions, vous allez voir qu'il ne va plus y avoir de mystère du tout et que tout va s'arranger. » Et elle ajouta, dans la langue bizarre de mon ami, afin de s'en moquer, « Un corps de trop d'un côté, un corps de moins de l'autre, mais tout est pour le mieux. »« Oui, » fit Rouletabille, « et c'est bien ce qui est affreux, car ce corps de moins arrive tout à fait à temps pour nous expliquer le corps de trop, madame. Maintenant, madame, sachez que ce corps de moins est le corps de votre oncle, monsieur Bob. » « Le vieux Bob !» s'écria-t-elle. « Le vieux Bob a disparu !» Et nous criâmes tous avec elle. « Le vieux Bob ? Le vieux Bob a disparu ?»« Hélas !» fit Rouletabille. Et il laissa tomber la canne. Mais la nouvelle de la disparition du vieux Bob avait tellement saisi les Rance et les Darzac que nous ne portâmes aucune attention à cette canne qui tombait. « Mon cher Sinclair, soyez donc assez aimable pour ramasser cette canne, » dit Rouletabille. Ma foi, je l'ai ramassée, cependant que Rouletabille ne daignait même pas me dire merci, et que Mistress Edith bondissait tout à coup comme une lionne sur M. Robert Darzac, qui opéra un mouvement de recul très accentué et poussait une clameur sauvage. « Vous avez tué mon oncle !» Son mari et moi-même eurent de la peine à la maintenir et à la calmer. D'un côté, nous lui affirmions que ce n'était pas une raison, parce que son oncle avait momentanément disparu pour qu'il eût disparu dans le sac tragique, et de l'autre, nous reprochions à Rouletabille la brutalité avec laquelle il venait de nous faire apparaître une opinion qui, au surplus, ne pouvait encore être dans son esprit inquiet qu'une bien tremblante hypothèse. Et nous ajoutâmes, en suppliant Mistress Edith de nous écouter, que cette hypothèse ne pouvait en aucune façon être considérée par Mistress Edith comme une injure, attendu qu'elle n'était possible qu'en admettant la supercherie d'un larcin qui aurait pris la place de son respectable oncle. Mais elle ordonna à son mari de se taire, et me toisant du haut en bas, elle me dit « Monsieur Sinclair, j'espère fermement même que mon oncle n'a disparu que pour bientôt réapparaître. S'il en était autrement, je vous accuserais d'être complice du plus lâche des crimes. Quant à vous, monsieur, » elle s'était retournée vers Rouletabille, l'idée même que vous avez pu avoir de confondre un larcin avec un vieux Bob me défend à jamais de vous serrer la main, et j'espère que vous aurez le tact de me débarrasser bientôt de votre présence. » Madame, répliqua Rouletabille en s'inclinant très bas, j'allais justement vous demander la permission de prendre congé de votre grâce. J'ai un court voyage de 24 heures à faire. Dans 24 heures, je serai de retour et prêt à vous aider dans les difficultés qui pourraient surgir à la suite de la disparition de votre respectable oncle. Si dans 24 heures, mon oncle n'est pas revenu, je déposerai une plainte entre les mains de la justice italienne, monsieur. C'est une bonne justice, madame, mais avant d'y avoir recours, je vous conseillerais de questionner tous les domestiques en qui vous pourriez avoir quelque confiance, notamment Mattoni. Avez-vous confiance, madame, en Mattoni? Oui, monsieur, j'ai confiance en Mattoni. Eh bien, madame, questionnez-le. Questionnez-le. Ah, avant mon départ, permettez-moi de vous laisser cet excellent et historique livre. » Et Rouletabille tira un livre de sa poche. « Qu'est-ce que ça encore ?» demanda Mistress Edith, superbement dédaigneuse. « Ça, madame, c'est un ouvrage de M. Albert Bataille, un exemplaire de ses causes criminelles et mondaines, dans lequel je vous conseille de lire les aventures, déguisements, travestissements, tromperies d'un illustre bandit dont le vrai nom est Balmeyer. » Rouletabille ignorait que j'avais déjà conté pendant 2 heures les histoires extraordinaires de Balmeyer à Madame Rance. Après cette lecture, continua-t-il, il vous sera loisible de vous demander si l'astuce criminelle d'un pareil individu aurait trouvé des difficultés insurmontables à se présenter devant vos yeux sous l'aspect d'un oncle que vos yeux n'auraient point vu depuis 4 ans. « Car il y a 4 ans, madame, que vos yeux n'avaient point vu, monsieur le vieux Bob, quand vous avez trouvé ce respectable oncle au sein des pampas de l'Araucanie. Quant au souvenir de monsieur Arthur Rance, qui vous accompagnait, j'étais beaucoup plus lointain et beaucoup plus susceptible d'être trompé que vos souvenirs et votre cœur de nièce. » Je vous en conjure à genoux, madame, ne nous fâchons pas. La situation pour nous tous n'a jamais été aussi grave. Restons unis. Vous me dites de partir, je pars, mais je reviendrai. Car s'il fallait tout de même s'arrêter à l'abominable hypothèse de larcin ayant pris la place de monsieur le vieux Bob, il nous resterait à chercher le vieux Bob lui-même. Auquel cas, je serai, madame, à votre disposition et toujours votre très humble et très obéissant serviteur. » À ce moment, comme Mistress Edith prenait une attitude de reine de comédie outragée, Rouletabille se tourna vers Arthur Rance et lui dit « Il faut agréer, monsieur Arthur Rance, pour tout ce qui vient de se passer, toutes mes excuses, et je compte bien sur le loyal gentleman que vous êtes pour les faire agréer à Mrs. Arthur Rance. Et comme vous me reprochez la rapidité avec laquelle j'ai exposé mon hypothèse, mais veuillez vous souvenir, monsieur, que Mistress Edith, il y a un instant encore, me reprochait ma lenteur. Mais Arthur Rance n'écoutait déjà plus. Il avait pris le bras de sa femme, et tous deux se disposaient à quitter la pièce, quand la porte s'ouvrit, et le garçon d'écurie, Walter, le fidèle serviteur du vieux Bob, fit irruption au milieu de nous. Il était dans un état de saleté surprenant, entièrement recouvert de boue et les vêtements arrachés. Son visage en sueur, sur lequel se plaquaient les mèches de ses cheveux en désordre, reflétait une colère mêlée d'effroi qui nous fit craindre tout de suite quelque nouveau malheur. Enfin, il avait à la main une loque infâme qu'il jeta sur la table. Cette toile repoussante, maculée de larges taches d'un brun rougeâtre, n'était autre, nous le devinâmes immédiatement en reculant d'horreur, que le sac qui avait servi à emporter le corps de trop. De sa voix rauque, avec des gestes farouches, Walter baragouinait déjà mille choses dans son incompréhensible anglais, et nous nous demandions tous, à l'exception d'Arthur Rance et de Mistress Edith, « Mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit ?» Et Arthur Rance l'interrompait de temps en temps, cependant que l'autre nous montrait des poings menaçants et regardait Robert Darzac avec des yeux de fou. Un instant, nous crûmes même qu'il allait s'élancer, mais un geste Mistress Edith l'arrêta. Et Arthur Rance traduisit pour nous. Il dit que, ce matin, il a remarqué des taches de sang dans la charrette anglaise et que Dopey était très fatigué de sa course de nuit. Cela l'a intrigué tellement qu'il a résolu tout de suite d'en parler au vieux Bob. Mais il l'a cherché en vain. Alors, pris d'un sinistre pressentiment, il a suivi à la piste le voyage de nuit de la charrette anglaise, ce qui lui était facile à cause de l'humidité du chemin et de l'écartement exceptionnel des roues. C'est ainsi qu'il est parvenu jusqu'à une crevasse du vieux Castillon dans laquelle il est descendu, persuadé qu'il y trouverait le corps de son maître. Mais il n'en a rapporté que ce sac vide qui a peut-être contenu le cadavre du vieux Bob. Et maintenant, revenu en toute hâte dans une carriole de paysan, il réclame son maître, demande si on l'a vu, et accuse Robert Darzac d'assassinat si on ne le lui montre pas. Nous étions tous consternés. Mais à notre grand étonnement, Mistress Edith reconquit la première son sang-froid. Elle calma Walter en quelques mots, lui promit qu'elle lui montrerait tout à l'heure son vieux Bob en excellente santé et le congédia. Et elle dit à Rouletabille, « Vous avez 24 heures, monsieur, pour que mon concre revienne. » « Merci, madame, » dit Rouletabille. « Mais s'il ne revient pas, c'est moi qui ai raison. »« Mais enfin, où peut-il être ?» s'écria-t-elle. Ben, « je ne pourrai point vous le dire, madame, maintenant qu'il n'est plus dans le sac. » Mistress Edith lui jeta un regard foudroyant et nous quitta, suivi de son mari. Aussitôt, Robert Darzac nous montra toute sa stupéfaction de l'histoire du sac. Il avait jeté le sac dans l'abîme avec l'arçon, et le sac revenait tout seul. Quant à Rouletabille, il nous dit « L'arçon n'est pas mort, soyez-en sûr. Jamais la situation n'a été aussi effroyable, et il faut que je m'en aille. Je n'ai pas une minute à perdre. » 24 heures. Dans 24 heures, je serai ici. Mais jurez-moi tous deux de ne point quitter ce château. Jurez-moi, monsieur Darzac, que vous veillerez sur madame Darzac, que vous lui défendrez même par la force, si c'est nécessaire, toute sortie. Ah, et puis, il ne faut plus que vous habitiez la tour carrée. Non, il ne le faut plus. À l'étage où habite M. Stangerson, il y a deux chambres libres. Il faut les prendre. C'est nécessaire. Sinclair, vous veillerez à ce déménagement-là. Aussitôt mon départ, ne plus remettre les pieds dans la tour carrée, hein ? Ni les uns, ni les autres. Adieu, ah, tenez. Laissez-moi vous embrasser tous les trois. Il nous serra dans ses bras, M. Darzac d'abord, puis moi, et puis, en tombant sur le sein de la dame en noir, il éclata en sanglots. Toute cette attitude de Rouletabille, malgré la gravité des événements, m'apparaissait incompréhensible. Hélas, combien je devais la trouver naturelle plus tard. Chapitre 15. Les soupirs de la nuit. Deux heures du matin. Tout semble dormir au château. Quel silence sur la terre et dans les cieux. Pendant que je suis à ma fenêtre, le front brûlant et le cœur glacé, la mer rend son dernier soupir, et aussitôt la lune s'est arrêtée dans un ciel sans nuages. Les ombres ne tournent plus autour de l'astre des nuits. Alors, dans le grand sommeil immobile de ce monde, j'ai entendu les mots de la chanson lituanienne, mais le regard cherchait en vain la belle inconnue qui s'était couvert la tête d'une vague et dont on n'a jamais plus entendu parler. Ces paroles m'arrivent claires et distinctes dans la nuit immobile et sonore. Qui les prononce ? Sa bouche à lui ? Sa bouche à elle ou mon hallucinant souvenir ? Ah ça, mais qu'est-ce que ce prince de la terre noire vient faire sur la côte d'Azur avec ses chansons lituaniennes? Et pourquoi son image et ses chants me poursuivent-ils ainsi? Pourquoi le supporte-t-elle? Il est ridicule avec ses yeux tendres et ses longs cils chargés d'ombre et ses chansons lituaniennes. Et moi aussi je suis ridicule. Aurais-je un cœur de collégien? Je ne le crois pas. J'aime mieux vraiment m'arrêter à cette hypothèse que ce qui m'agite dans la personnalité du prince Galitch est moins l'intérêt que lui porte Mistress Edith que la pensée de l'autre. Oui, c'est bien cela. Dans mon esprit, le prince et Larsan viennent m'inquiéter ensemble. On ne l'a pas vu au château depuis le fameux déjeuner où il nous fut présenté, c'est-à-dire depuis l'avant-veille. L'après-midi qui a suivi le départ de Rouletabille ne nous a rien apporté de nouveau. Nous n'avons pas de nouvelles de lui, pas plus que du vieux Bob. Mistress Edith est enfermée chez elle. Après avoir interrogé les domestiques et visité les appartements du vieux Bob et de la tour ronde, elle n'a pas voulu pénétrer dans l'appartement de Darzac. « C'est l'affaire de la justice », a-t-elle dit. Arthur Rand s'est promené une heure sur le boulevard de l'Ouest et il paraissait fort impatient. Personne ne m'a parlé. Ni monsieur ni madame Darzac ne sont sortis de la Louve. Chacun a dîné chez soi. On n'a pas vu le professeur Stangerson. Et maintenant, tout semble dormir au château. Mais les ombres se reprennent à tourner autour de l'astre des nuits. Qu'est-ce que ceci, sinon l'ombre d'un canot qui se détache de l'ombre du fort et glisse maintenant sur le flot argenté? Quelle est cette silhouette qui se dresse orgueilleuse à l'avant, pendant qu'une autre ombre se courbe sur la rame silencieuse? C'est la tienne, Fyodor Fyodorovitch. Eh, voilà un mystère qui sera peut-être plus facile à pénétrer que celui de la tour carrée, ô Rouletabille. Et je crois que la cervelle de Mistress Edith y suffirait. Nuit hypocrite, tout semble dormir et rien ne dort, ni personne. Qui donc peut se vanter de pouvoir dormir au château d'Hercule? Croyez-vous que Mistress Edith dort? Et monsieur et madame Darzac dorment-ils? Et pourquoi monsieur Stangerson, qui semble dormir tout éveillé le jour, dormirait-il justement cette nuit-là, lui dont la couche n'a cessé d'être visitée, comme on dit, par la pâle insomnie depuis la révélation du glandier? Et moi, est-ce que je dors? J'ai quitté ma chambre, je suis descendu dans la cour du Téméraire. Mes pas m'ont porté en hâte sur le boulevard de la Tour Ronde. Si bien que je suis arrivé à temps pour voir, sous la clarté lunaire, la barque du prince Galitch aborder à la grève devant les jardins de Babylone. Il sauta sur le galet et derrière lui, l'homme ayant rangé les rames sauta. Je reconnus le maître et le domestique, Fyodor Fyodorovitch et son esclave Jean. Quelques secondes plus tard, il s'enfonçait dans l'ombre protectrice des palmiers centenaires et des eucalyptus géants. Aussitôt, j'ai fait le tour du boulevard de la cour du Téméraire. Et puis, le cœur battant, je me suis dirigé vers la baille. Les dalles de la poterne ont retenti sous mon pas solitaire, et il m'a semblé voir une ombre se dresser, attentive, sous l'ogive à demi détruite du porche de la chapelle. Je me suis arrêté dans la nuit épaisse de la tour du jardinier, et j'ai tâté dans ma poche mon revolver. L'ombre là-bas n'a pas bougé. Est-ce bien une ombre humaine qui écoute? Je me glisse derrière une haie de verveine qui borde le sentier conduisant directement à la Louve, à travers buissons et bosquets et tout le débordement parfumé du printemps en fleurs. Je n'ai point fait de bruit. Rassuré, sans doute, a fait, elle, un mouvement. C'est la dame en noir. La lune, sous l'ogive à demi détruite, me la montre toute blanche. Et puis, cette forme tout à coup disparaît comme par enchantement. Alors, je me suis rapproché encore de la chapelle, et au fur et à mesure que je diminuais la distance qui me séparait de ces ruines, je percevais un léger murmure, des paroles entrecoupées de soupirs si mouillés de larmes que mes propres yeux en devinrent humides. La dame en noir pleurait, là, derrière quelques piliers. Était-elle seule? N'avait-elle point choisi dans cette nuit d'angoisse cet autel envahi par les fleurs pour y venir apporter en toute paix sa prière embaumée? Et tout à coup, j'aperçus une ombre à côté de la dame en noir, et je reconnus Robert Darzac. De l'endroit où j'étais, je pouvais maintenant entendre tout ce qu'il pouvait se dire. L'indiscrétion était forte, inélégante, honteuse. Chose curieuse, je crus de mon devoir d'écouter. Maintenant, je ne songeais plus du tout à Mistress Edith ni au prince Galitch, mais je songeais toujours à Larsan. Pourquoi? Pourquoi était-ce à cause de Larsan que je voulais savoir ce qu'il disait? Je compris que Mathilde était descendue furtivement de la Louve pour promener son angoisse dans le jardin, et que son mari l'avait rejointe. La dame en noir pleurait. Elle avait pris les mains de Robert Darzac et lui disait « je sais toute votre peine, ne me la dites plus. Quand je vous vois si changé, si malheureux, je m'accuse de votre douleur, mais ne me dites pas que je ne vous aime plus. Oh, je vous aimerai encore, Robert, comme autrefois. Je vous le promets. » Et elle sembla réfléchir, pendant que lui, incrédule, l'écoutait encore. Elle reprit, bizarre et cependant avec une énergique conviction, « Certes, je vous le promets !» Elle lui serra encore la main et elle partit, lui adressant un divin mais si malheureux sourire que je me demandais comment cette femme avait pu parler à cet homme de bonheur possible. Elle me frôla sans me voir. Elle passa avec son parfum et je ne sentis plus les lauriers cerises derrière lesquels j'étais caché. Monsieur Darzac était resté à sa place. Il la regardait encore. Il dit tout haut, avec une violence qui me fit réfléchir, « Oui, oh, il faut être heureux, il le faut. » Ah, certes, il était bien à bout de patience. Et avant de s'éloigner à son tour, il eut un geste de protestation contre le mauvais sort, d'emportement contre la destinée, un geste qui ravissait la dame en noir, la jetait sur sa poitrine et l'en faisait le maître à travers l'espace. Il n'eut pas plutôt fait ce geste que ma pensée se précisa. Ma pensée qui errait autour de Larsan s'arrêta sur Darzac. Oh, je m'en souviens très bien. C'est à partir de cette seconde où il eut ce geste de rapt dans la nuit lunaire que j'osais me dire ce que je m'étais déjà dit pour tant d'autres, pour tous les autres, si c'était Larsan. Et en cherchant bien au fond de ma mémoire, je trouve que ma pensée a été plus directe encore. Au geste de l'homme, elle a répondu tout de suite, elle a crié « C'est Larsan !» J'en fus tellement épouvanté que, voyant Robert Darzac se diriger vers moi, je ne pus retenir un mouvement de fuite qui lui révéla ma présence. Il me vit, me reconnut, me saisit le bras et me dit « Ah, vous étiez là, Sinclair, vous veilliez. Nous veillons tous, mon ami. » Et vous l'avez entendu? Voyez-vous, Sinclair, c'est trop de douleur. Moi, je n'en puis plus. Nous allions être heureux. Elle-même pouvait croire qu'elle avait été oubliée du destin quand l'autre est réapparu. Alors, ça a été fini. Elle n'a plus eu de force pour notre amour. Elle s'est courbée sous la fatalité. Elle a dû s'imaginer que celle-ci la poursuivait d'un éternel châtiment. Il a fallu le drame effroyable de la nuit dernière pour me prouver à moi-même que cette femme m'a réellement aimé autrefois. Oui, un moment, elle a craint pour moi, et moi, hélas, je l'ai tuée que pour elle. Mais la voilà retournée à son indifférence mortelle. Elle ne songe plus, si elle songe encore à quelque chose, qu'à promener un vieillard en silence. » Il soupira si tristement et si sincèrement que l'abominable pensée en fut chassée du cou. Je ne songeais plus qu'à ce qu'il me disait, à la douleur de cet homme qui semblait avoir perdu définitivement la femme qu'il aimait, dans le moment que celle-ci retrouvait un fils dont il continua d'ignorer l'existence. De fait, il n'avait dû rien comprendre à l'attitude de la dame en noir, à la facilité avec laquelle elle paraissait s'être détachée de lui, et il ne trouvait, pour expliquer une aussi cruelle métamorphose, que l'amour exaspéré par le remords de la fille du professeur Sangerson pour son père. Et M. Darzac continua de gémir. À quoi m'aura servi de le frapper? Pourquoi l'ai-je tué? Pourquoi m'impose-t-elle, comme un criminel, cet horrible silence, si elle ne veut pas m'en récompenser de son amour? Redoute-t-elle pour moi de nouveaux juges? Hélas, pas même, Sinclair. Non, non, pas même. Elle redoute que la pensée agonisante de son père ne succombe devant l'éclat d'un nouveau scandale. Son père, toujours son père. Et moi, je n'existe pas. Je l'ai attendu 20 ans, et quand enfin je crois qu'elle est venue, son père me la reprend. Je me disais, son père, oui, son père et son enfant. Il s'assit sur une vieille pierre écroulée de la chapelle et dit encore, se parlant à lui-même, « Mais je l'arracherai de ses murs. Je ne peux plus l'avoir errée ici au bras de son père, comme si je n'existais pas. » Et pendant qu'il disait ces choses, je revoyais la double et lamentable silhouette du père et de la fille, passant et repassant à l'heure du crépuscule, dans l'ombre colossale de la tour du Nord, allongée par les feux du soir, et j'imaginais qu'il ne devait pas être plus écrasé sous les coups du ciel, cet Édipe et cette Antigone qu'on nous représente de notre plus jeune âge, traînant sous les murs de colonnes le poids d'une surhumaine infortune. Et puis, tout à coup, sans que je puisse en démêler la raison, peut-être à cause d'un geste de Darzac, l'affreuse pensée me ressaisit et je demandai à brûle-pourpoint, mais comment se fait-il que le sac était vide? Je constatai qu'il ne se troubla point. Il me répondit simplement, Poultabille nous le dira peut-être. Puis il me serra la main et s'enfonça pensif dans les massifs de la baille. Je le regardais marcher. « Je suis fou !»